vivre et du verbe mourir et nous-mêmes, alors c'est notre conscience qui définit à la fois notre identité et notre existence. En témoigne le fait que c'est la cessation de toute activité mentale détectable, de toute activité cérébrale détectable, auquel on donne improprement le nom de mort cérébrale, qui définit médicalement et légalement aujourd'hui la fin de notre existence. Mais quand la vie dont il s'agit n'est pas une vie humaine, mais la vie d'une fleur ou d'un arbre, auquel nous ne prêtons aucune activité mentale, aucune conscience, est-ce que nous sommes absolument sûrs que ce qui persiste d'une plante est aussi radicalement différent de ce qui en a disparu, que le terme de mort est plus approprié que le terme de transformation ou de métamorphose? Est-ce que nous ne projetons pas, par une démarche anthropomorphique, une partie de ce que nous attribuons à notre conscience et à notre identité dans ces êtres vivants que nous regardons? Bien sûr, la sexualité introduit une différence génétique entre les parents et la descendance, donnant une certaine consistance à cette frontière. Mais lorsqu'il s'agit de reproduction asexuée, de reproduction clonale, comme c'est le cas dans certaines espèces végétales et certains petits animaux, est-ce que nous sommes toujours sûrs du caractère aussi radical de la frontière? Dans son hymne de la mort, Pierre Ronsard chantait « Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau et rien de sous le ciel ne se voit de nouveau ». Mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir quand la forme en une autre s'en va. Est-ce que nous sommes toujours sûrs de pouvoir distinguer quand la forme s'est changée en une autre nouvelle, et quand dans une autre elle s'en est allée ? Le sujet que nous avons pris pour l'instant, pour le verbe « vivre » et pour le verbe « mourir », et un être humain, un animal, une plante. On pourrait prendre d'autres sujets, comme les espèces vivantes, qui posent d'autres questions et qui posent d'autres problèmes, mais nous allons encore changer de sujet. Depuis son origine, la vie est généalogie, et c'est sous forme de cellules que le vivant s'est propagé à travers le temps. Nous sommes chacun comme l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, des papillons aux fleurs, des arbres aux oiseaux, composés de cellules, les plus petites entités universelles du vivant, apparemment autonomes, capables de puiser leurs ressources dans leur environnement, de se pérenniser et de se reproduire. La vie est généalogie, mais nous sommes nous-mêmes chacun une généalogie. Un microcosme, un petit univers, selon les mots de Charles Darwin, constitué d'innombrables organismes qui se reproduisent incroyablement petits, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Nous naissons chacun d'une cellule unique, la cellule œuf, née elle-même de la fusion de deux cellules, un spermatozoïde et un ovule, et nous nous transformons progressivement en une constellation cellulaire composée de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules dont les interactions engendrent notre corps et notre esprit. Et pour cette raison, toute interrogation sur la vie et la mort, sur notre vie et notre mort, nous ramène aussi à une interrogation sur la vie et la mort des cellules qui nous composent. Quelle est la nature des relations que les cellules entretiennent avec la vie et la mort? Pendant longtemps, une idée prédominante a été que la disparition de nos cellules, comme notre disparition en tant qu'individu, ne pouvait résulter que de destruction, d'accidents, de famine ou d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps, à l'usure et au vieillissement. Mais après 150 ans d'interrogations et de recherches, la réalité est apparue plus complexe. Ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir aujourd'hui, c'est que la totalité des cellules qui composent notre corps est, à chaque instant, capable de déclencher leur autodestruction, de mourir prématurément, avant que rien de l'extérieur ne vienne les détruire. La deuxième notion, c'est que c'est à partir de leurs gènes, à partir de nos gènes, les déterminants de notre hérédité, que les cellules fabriquent les exécuteurs moléculaires capables de précipiter leur fin, et les protecteurs moléculaires qui sont pendant un certain temps capables de neutraliser l'effet de ces exécuteurs. La troisième notion, c'est que la survie de toutes nos cellules dépend en permanence de leur capacité à trouver dans l'environnement de notre corps les interactions qui seules sont capables de réprimer le déclenchement de leur autodestruction. Une cellule qui a vécu un jour, un mois ou un an dans notre corps est une cellule qui pendant un jour, un mois ou un an a trouvé dans l'environnement de notre corps les moyens, les interactions, les molécules capables de réprimer le déclenchement de leur autodestruction. Une cellule qui commence à mourir dans notre corps est une cellule qui, pour la première fois, depuis un jour, un mois ou un an, a cessé de